Nous poursuivons notre cheminement avec Abraham. Nous l'avons vu la semaine dernière intercéder pour la ville de Sodome. Et je vous invite à lire maintenant la suite du récit dans Genèse, chapitre 19. Nous lisons les 29 premiers versets de ce chapitre. Deux anges, donc, parmi les trois visiteurs qui étaient venus annoncer à Abraham la naissance de son fils, deux anges sont allés vers Sodome. Et il nous a dit que ces deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre, se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin si vous poursuivez votre route et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et dirent, « Où sont les hommes qui sont arrivés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de sa maison, ferma la porte derrière lui. Il dit, « mes frères, je vous en prie, ne faites pas de mal. Voici, je vous en prie, j'ai deux filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vous en prie, je vous les amènerai dehors, vous en ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme immigrant et il veut faire le juge. Eh bien, nous allons te faire pire qu'à eux. » Puis, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges étendirent la main, firent entrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils, fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir à cet endroit, car nous allons détruire cet endroit parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Lot sortit pour aller parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles, et il leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent là pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Mais ils s'attardaient. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit, « Échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête pas du tout dans la plaine, échappe-toi vers la montagne, de peur que tu ne succombes. » Lot leur dit, « Oh non, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie, ton serviteur a obtenu faveur, ta faveur, tu as montré de la grandeur et ta bienveillance à mon égard en me conservant la vie. Mais moi, je ne puis m'échapper vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi, je mourrai. Je t'en prie, voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, elle est petite. Oh, que je puisse m'échapper jusque-là, n'est-elle pas petite, que je reste en vie. » Alors il lui dit, « Voici, par considération pour toi, en cette circonstance, je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre, sur tout le pays de la plaine, et il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque l'Éternel détruisit les villes de la plaine, l'Éternel se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme, lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Jusqu'ici donc notre lecture. Lorsqu'un événement tragique est survenu brutalement et qu'on ne peut plus rien changer à cette réalité implacable, il est fréquent qu'on essaye, après l'événement, qu'on essaye mentalement de repasser le film en arrière et de faire le compte à rebours jusqu'à cet événement implacable qui est arrivé. J-2, J-1, une heure avant, une minute avant. Les films catastrophes sont souvent construits sur ce modèle pour faire monter la pression, mais ils commencent en général un petit poil avant l'instant final pour permettre une issue de dernière minute. Mais quand un drame est vraiment arrivé, c'est autre chose. Il y a bien des années, lorsque nous étions à Nîmes, une jeune femme de notre église a eu un accident mortel à l'âge de 34 ans. Elle revenait du centre de vacances que l'église possède dans les Cévennes. C'était après un camp où elle avait travaillé. Et elle s'était endormie au volant, avait heurté un muret à hauteur d'un passage à niveau. Pendant les mois, les années qui ont suivi, chaque fois que je prenais cette route, et nous la prenions assez souvent, lorsque j'arrivais à proximité du lieu de l'accident, je m'imaginais être elle dans la voiture. Je m'étais promis de le faire en mémoire d'elle. Mais c'était assez terrifiant. C'était assez terrifiant. Car j'avais en fait le choix entre deux attitudes possibles, deux attitudes mentales possibles. Soit je me disais, en m'identifiant à elle, au passage à niveau, c'est la fin. Et l'approche de cette fin, mètre après mètre, quand on sait que le choc va avoir lieu, est quelque chose de terriblement oppressant, mentalement parlant. Mais je pouvais aussi me faire un film différemment et me dire, jusqu'ici, elle ne savait rien. Jusqu'ici, tout allait bien pour elle. Et ce qui est effrayant alors, c'est le basculement soudain d'une réalité qu'on ne pressentait pas à un drame effroyable et définitif qui changeait tout d'un coup. Nous avons l'habitude d'avancer vers un avenir indéfini. C'est comme l'horizon. On a beau avancer, il reste toujours devant nous. On ne le rattrape jamais. On prend l'habitude de penser le présent, de penser l'avenir de cette façon-là. J'ai encore le temps. J'ai encore du temps. Mais qu'en est-il lorsqu'une échéance est fixée? Lorsque l'heure H, lorsque notre heure est marquée? Lorsque nous découvrons la ville de Sodome, au début du chapitre 19 ici, nous sommes un peu dans ce dilemme. Nous savons la ville menacée de destruction par le Seigneur à cause du mal qui s'y commet, à cause de ce cri qui est monté jusqu'au ciel. Nous savons que le sort de cette ville ne tient qu'à un fil, à cause de l'intercession d'Abraham et à cause de la volonté du Seigneur de faire grâce tant qu'il peut. S'il y trouve 10 justes, le Seigneur a promis qu'il épargnera la ville. Mais globalement, le compte à rebours a commencé, nous le savons. Lorsque les anges arrivent aux portes de la ville, ce soir-là, pour les gens de Sodome, c'est le soir d'un jour ordinaire. Un jour comme il y en a eu tant d'autres. Un jour comme il y en aura tant d'autres. Lot, neveu d'Abraham, voit arriver ces deux hommes. Il est, nous dit le récit, assis à la porte de la ville, aux portes de la ville. Le lieu n'est pas anodin. Les portes de la ville étaient autrefois l'endroit où siégeaient les notables, les dignitaires. Lot en a fait du chemin depuis qu'il s'est séparé d'Abraham 20 ans auparavant. Au chapitre 13, nous l'avons vu quitter la montagne où il était avec Abraham pour les plaines fertiles de la région de Sodome. Et nous dit le texte, il a dressé ses tentes en direction de Sodome. Il n'était pas à Sodome, il était à l'extérieur. Au chapitre 14, nous découvrons maintenant qu'il habite à Sodome, nous l'avons vu. Et 20 ans après, lorsque nous le retrouvons, le voilà installé. Le voilà reconnu, assis à la porte de la ville. A-t-il gagné cette considération parce qu'Abraham a sauvé la ville? Ce n'est pas impossible. Si c'est le cas, ce serait en contraste total à l'attitude d'Abraham qui, lui, avait refusé d'être enrichi ou récompensé d'aucune manière par le roi de Sodome. Abraham avait voulu marquer sa distance par rapport à la ville de triste notoriété. Lot, apparemment, n'a pas ses scrupules. Il accepte les honneurs de la ville. Il compose avec la situation. Il en tire son parti. Ça fait des années que c'est comme cela. Et ce soir-là, Lot n'a aucune raison de penser que demain, tout aura basculé. Il ne sait pas qu'à des kilomètres de là, Abraham a prié, Abraham a plaidé pour lui et pour la ville, demandant à Dieu de ne pas faire périr les justes avec les coupables. Lorsqu'il discerne ces étrangers qui s'approchent de la ville, il s'empresse avec respect de leur offrir l'hospitalité dans sa maison. L'hospitalité orientale se découvre ici, se déploie dans toute sa grâce. « Détournez-vous, je vous en prie, dit Lot, pour rentrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Magnifique attitude qui se déclare honorée d'accueillir quelqu'un chez lui, honorée d'accueillir quelqu'un chez soi. Lorsque nous ouvrons notre porte à quelqu'un, nous considérons parfois que la grâce, c'est nous qui l'accordons parce que nous invitons, parce que nous accueillons. Ici, la grâce, c'est le privilège de pouvoir accueillir l'autre, que l'autre veuille bien venir chez nous. Il est bon, il serait bon que nous soyons animés de ce même état d'esprit, de ce bel état d'esprit de l'hospitalité orientale. Mais peut-être que l'on discerne aussi dans cette invitation de Lot, une intention de veiller à ce que les voyageurs ne s'attardent pas trop dans la ville. Venez passer la nuit chez vous et vous pourrez repartir demain matin, dit Lot. Lot ne fait pas l'article de la ville. Lot ne vante pas son mode de vie alternatif, son ambiance gaie et branchée. Venez chez moi. « Avant de repartir demain, dit-il, est-ce un rôle qu'il se donne? Protéger au moins ceux qui passent innocemment dans la ville? » C'est en tout cas ce qu'il fait pour ces deux voyageurs. Lorsqu'il découvre que ces hommes, apparemment au courant de rien, comptent passer leur nuit sur la place de la ville, il s'empresse de les détourner de leurs projets pour les prendre vraiment sous sa protection. Les pauvres ignorants, passer la nuit sur la place de la ville. Autrement dit, Lot n'est pas dupe de ce qui se passe à Sodome. S'il accepte les honneurs de la ville, il est clair qu'il se préserve lui-même du mode de vie de ceux qui l'entourent. Et il veut protéger ses voyageurs de mauvaises expériences. C'est peut-être ce qui amène l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, à décrire Lot comme un juste, quelqu'un qui ne partageait pas le mode de vie déréglé des habitants de Sodome, mais qui s'en affligeait plutôt et qui cherchait à rester droit. Quels sont-ils donc ces dérèglements de Sodome ? Quel est-il ce péché de Sodome dont le cri monte jusqu'au ciel et qui lui vaudra le jugement de Dieu? La suite du récit nous donne un éclairage sur la situation morale de la ville de Sodome. Une fois la nuit avancée, voilà qu'une foule d'hommes de la ville vient faire le siège de la maison de Lot. Leur intention est claire. Ils veulent que Lot fasse sortir les hommes qui l'hébergent pour qu'ils puissent abuser d'eux sexuellement. Fais sortir ces hommes afin que nous les connaissions. Le verbe connaître ici ne veut pas dire faire gentiment connaissance. Le verbe connaître ici veut dire avoir des relations sexuelles, comme on dit qu'un tel connut sa femme et qu'elle enfanta un fils. Certains cherchent à lire dans ce récit une simple condamnation du non-respect de la loi sacrée de l'hospitalité par les gens de Sodome. Mais il s'agit d'autre chose, de toute autre chose. Et le fait que Lot fasse la proposition sordide et absolument atroce de leur livrer ces deux filles, qui n'avaient pas commis d'homme, montre le côté sexuel de l'exigence de cette foule qui était venue à sa porte, qui était venue pour ces hommes venus vers lui. Le texte précise que ce sont des hommes de sexe masculin qui veulent abuser les hommes hébergés par Lot. Sodome était une ville où la pratique de l'homosexualité était la règle. C'est l'un des péchés de Sodome. Pour la Bible, la différence homme-femme est voulue par Dieu, notre Créateur. Elle est bonne. Elle donne le cadre pour les relations sexuelles telles que Dieu les veut. Ce n'est pas le seul cadrage de la sexualité donné par la Bible. L'engagement du mariage dans une alliance claire où l'on donne son amour et sa fidélité avant d'engager les relations physiques en est une autre. Le Seigneur a fait du couple, homme et femme, engagés fidèlement l'un envers l'autre, la structure de base de la famille, de la société et de sa perpétuation. Et nous devons avoir à cœur d'honorer ce que le Seigneur a voulu, soit dans le mariage, soit dans le célibat, et de le faire en puisant en lui la force dont nous avons besoin. La pratique de l'homosexualité ne respecte pas ce cadre donné et voulu par Dieu pour la sexualité. Et le fait de passer par-dessus la différence sexuelle qui est inscrite dans nos corps marque une distance supplémentaire par rapport à l'intention initiale du Créateur. Et cette distanciation explique que la Bible emploie des mots très sévères à l'égard de la pratique de l'homosexualité. Mais notre récit nous montre d'autres dimensions du péché de Sodome. C'est une tentative de viol à laquelle nous assistons, sous couvert peut-être de l'idée que si ces hommes sont là, s'ils sont chez nous, c'est qu'ils veulent ça. Des gens de toute la ville se retrouvent, du plus grand au plus petit, nous a-t-il dit, soit pour participer, soit pour voir, par simple voyeurisme. Une population avide qui vient au spectacle le soir venu. Notre monde d'aujourd'hui ne fait pas mieux, quelle que soit l'orientation sexuelle des personnes. Les tournantes, on entend parler parfois, la prostitution subie sous couvert que c'est choisi, le viol devenu une arme de guerre, font partie de ces horreurs dont le cri s'élève tout aussi fort vers le Seigneur de notre terre aujourd'hui. Et dans bien des salons très ordinaires et très respectables, on s'associe au même genre de choses, par écran de télévisé interposé ou sur Internet. Les images, les décors, les sourires des acteurs tentent de faire croire que tout ça est produit en toute liberté. Mais que de cris aussi, que d'exploitation de personnes derrière ces images tellement banalisées. Et quelle tristesse du Seigneur qui lit dans tous les cœurs et qui connaît tous nos actes et nos pensées s'il nous voit nous associer à cela. La Bible nous donne un autre éclairage encore sur le péché de Sodome. Il se trouve dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 16. Voilà ce que dit Ézéchiel. « Voilà quel a été le crime de Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elle est devenue hautaine. Elle a commis des abominations devant moi. » Ici, c'est aussi le mal social. C'est l'injustice, le mépris des pauvres. Et c'est le mal spirituel à la base, l'orgueil d'une vie sans autre référence que soi, d'une vie où on devient hautain, où soi-même on se donne toutes les normes de vie. Ésaïe aura des propos semblables. Il traite les dirigeants de Jérusalem, à un moment donné, de chefs de Sodome et de chefs de Gomorre. Vous imaginez le genre de ce que ça représente comme message. Mais que dénonce-t-il quand il dit cela? Il dénonce les mains pleines de sang, parce qu'on ne fait pas droit à l'orphelin, parce qu'on ne défend pas la veuve, parce qu'on multiplie les pots de vin pour détourner de la justice. Tout cela fait des gens de Sodome de grands pécheurs, dont le cri monte jusqu'au ciel. Tout cela fait de notre monde un monde de grands pécheurs, dont le cri monte jusqu'au ciel. Mais comme Lot, à force d'y vivre, nous y sommes peut-être un peu trop habitués. Et comme pour Lot, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, n'est-ce pas? La terre continue de tourner. Chaque jour annonce le jour suivant qui va venir. Jusqu'ici tout va bien. Le choc révélateur du mal se passe pour Lot dans la confrontation avec cette foule qui soudain entoure sa maison. Il essaye comme il peut de protéger ses hôtes. On le voit sortir seul devant eux et fermer la porte derrière lui. C'est un beau geste qu'il fait là. Jusqu'ici, c'est courageux. Il essaye de jouer la carte de la proximité. « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. » Autrement dit, on se connaît bien depuis des années, écoutez-moi. Mais la complicité ne joue plus devant l'avidité d'un groupe. La pression monte. Lot fait alors une offre atroce en proposant ses deux filles à la place des deux voyageurs. Là, on est consterné. N'aurait-il pas dû se proposer lui-même? Son devoir de père n'était-il pas de protéger les siens? C'est vrai que la proposition est absolument atroce. On n'ose pas imaginer ce qui serait passé si elle s'était réalisée. Probablement que dans sa panique, Lot a dû se dire très vite qu'il ne suffirait pas de s'interposer lui-même, qu'il fallait un prix plus fort. Mais son choix est désastreux, son choix est abominable. C'est tout sauf ce que la Bible demande. Le sacrifice de soi, oui. Le sacrifice des autres, non. Jamais. Mais peut-être que cet exemple nous montre aussi l'horreur des situations. Quand on est soumis à la pression d'une violence collective, ça montre la perte des moyens, la perte de la lucidité que l'on peut expérimenter alors. Mais dans cette affaire, Lot a prononcé un mot qu'il n'aurait pas dû prononcer. « Ne faites pas le mal », a-t-il dit. « Mes frères, ne faites pas le mal ». Il a osé un jugement moral, sans peut-être y penser, peut-être pour les toucher. Et voilà tout d'un coup, la belle entente et la belle unité de façade entre Lot et les habitants de Sodome qui s'écroule. Voilà que tout d'un coup, Lot n'est plus un notable bien accepté, bien honoré. Il est l'étranger qui veut faire le juge. Ne soyons pas dupes sur certaines pseudo-ententes qui ne tiennent que tant qu'on ne dit rien. Lot, le notable, n'était toléré comme notable que tant qu'il se taisait, tant qu'il ne disait rien. Quand il commence à dire « c'est peut-être mal », ah, c'est l'étranger. Ce n'est qu'un étranger qui veut nous imposer sa morale. Nous sommes appelés à être témoins dans ce monde, témoins des valeurs de l'Évangile, témoins de ce que la Bible nous enseigne. Il nous faut essayer de l'être avec intelligence, avec sensibilité et surtout avec une grande cohérence de vie. Mais cet épisode nous rappelle que certains positionnements, sur le plan moral en particulier, peuvent nous coûter une acceptation que nous croyons acquise. Il nous faut apprendre à dire « je ne suis pas d'accord ». Il nous faut apprendre à expliquer avec grâce pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Si une relation tient malgré tout, c'est qu'elle aura une consistance. une consistance qui peut engendrer le respect mutuel. Mais la position de Lot, le notable qui ne disait rien, ne repose pas sur un vrai respect. Et ça nous interroge quand même sur la façon dont nous citons. Ce n'est pas facile aujourd'hui, quand on est avec des valeurs très différentes de celles que partagent les gens qui sont autour de nous. Ce n'est pas facile d'avoir l'impression d'être comme une sorte d'ovni au milieu d'un monde où on pense différemment. Et nous devons tenter de l'être avec sincérité, de l'être avec cohérence, de l'être avec grâce. Et c'est mieux que de faire silence et de faire comme si tout allait bien, comme si on était d'accord sur tout, comme si on pouvait tout accepter. Il faudra en tout cas l'intervention miraculeuse des anges pour stopper la détermination de la foule qui était prête à malmener Lot et à forcer la porte pour réaliser ses projets. Et on voit ici les rôles s'inverser. Ce sont désormais ses invités qui protègent Lot, et non pas Lot qui protège les invités. Ils frappent d'aveuglement la foule venue contre eux. C'est maintenant le moment où tout se joue dans l'histoire. La preuve est faite de la méchanceté de la ville. La preuve est faite aussi, d'une certaine façon, de la rupture entre Lot et Sodome. Il n'est qu'un étranger, tout juste toléré, tant qu'il ne faisait pas de bruit. Désormais, c'est une question d'heure. Le jugement va tomber sur la ville. Le compte à rebours a commencé, c'est clair. On ne peut plus vivre comme avant. Il faut faire des choix clairs. Pour Lot et les siens, ça veut dire s'enfuir. Quitter le navire avant qu'il ne soit trop tard. Une voie de salut est possible. Elle est offerte par les messagers de Dieu. Un temps est donné pour faire le choix qui compte. Mais ce choix, c'est de prendre au sérieux la parole des messagers qui dit que Dieu n'accepte pas le mal, qui dit que Dieu a mis une limite à cette somme de mal accumulée et qu'il va exercer son jugement. Il faut le croire, cette parole que Dieu donne les messagers. Ce choix, c'est d'entendre aussi qu'une issue est possible et qu'elle est offerte avant qu'il ne soit trop tard. Lot est invité par les messagers à prévenir autour de lui ses proches, ses gendres. Mais lorsqu'il parle à ses gendres, ou à ses futurs gendres, on ne sait pas de ce qui va se passer, de ce qu'on dit les envoyer, les gendres se comptent de sourire. Le verset nous dit, verset 14, « À leurs yeux, dit-il, dit le récit, Lot parut plaisanter. » Il parut plaisanter. Il sourit de ça. Ils ont vu pourtant l'action puissante des messagers. Mais tout va si bien à Sodome, qui a ses valeurs, qui a ses coutumes. C'est les coutumes locales. On ne va pas se laisser perturber, on ne va pas se mettre en question, on ne va surtout pas s'affoler. Ça fait vraiment penser à l'épisode du Titanic, lorsque le choc a déjà eu lieu, lorsque l'eau commence à rentrer, lorsque certains savent mathématiquement que le bateau va couler, et que d'autres se rassurent en se disant que le navire est réputé insubmersible. Les uns iront vers les canots de sauvetage en prenant au sérieux la menace, les autres continueront à danser dans le luxe et l'insouciance. Aujourd'hui aussi, l'idée d'un jugement possible de Dieu sur le monde, d'un jugement de Dieu sur le mal, sur notre vie, fait sourire bien des personnes. On paraît plaisanter quand on dit ça, comme pour les gendres de Lot. Beaucoup préfèrent continuer comme si de rien n'était, continuer dans l'insouciance, dans la légèreté. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a tant à faire, il y a tant à vivre, et la piste de danse est si belle et tellement glamour. Mais si vraiment le compte à rebours est en route, si vraiment il existe un Dieu vivant qui jugera la terre, cette insouciance si aérienne perd de sa superbe et devient juste un enfermement mental ou une totale irresponsabilité. Nous le savons, un messager du ciel est venu vers nous sur la terre. Il s'appelle Jésus. Ce messager a attesté sa crédibilité avec puissance par sa résurrection. Il a aussi annoncé, comme les anges, qu'il y avait un chemin du salut. Et ce chemin du salut, il l'a rendu possible. Mais il a été clair. Le ciel et la terre passeront. Et il en sera à ce moment-là comme au jour de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même, dit Jésus, lors de la venue du Fils de l'homme. Comment recevons-nous ces paroles de Jésus ? Nous paraît-il plaisanter ? Mais si un compte à rebours pour notre monde est vraiment en marche, même si nous n'en savons pas le jour ni l'heure, que faisons-nous d'une telle réalité ? Pour Lot, l'annonce du jugement devient l'heure du choix. Un choix qui doit être clair. Les messagers proposent une issue, c'est le salut. Il y a un chemin de salut qui est ouvert à leurs paroles. Mais avec une exigence, ne pas regarder en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que pour être sauvé, il ne suffit pas simplement de vouloir sauver sa peau. Ça ne suffit pas de juste vouloir sauver sa peau. Il faut aussi se désolidariser du mal. Il faut aussi se désolidariser d'un mode de vie où l'homme est au centre pour déterminer lui-même les choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder en arrière avec regret. Car c'est cela le péché de Sodome avec un grand P jusqu'au ciel. Vouloir tout déterminer nous-mêmes, indépendamment du regard de Dieu sur les choses. Et c'est pour ça que Dieu demande, pour nous sauver et pour nous pardonner, il demande d'une part la foi, oui, en lui, la foi en l'œuvre de Jésus qui permet le salut, qui permet le pardon. Mais il demande aussi un changement de regard, un changement profond de regard sur nous-mêmes, sur la vie, sur le monde. Il nous faut laisser définitivement en arrière ce regard où c'est moi qui suis au centre, où c'est moi qui suis la norme, pour m'ouvrir à une vie où c'est Dieu qui est au centre, où Dieu qui est la norme. Un choix clair. Lot et sa famille auront du mal à faire ce choix clair. Il faudra les tirer, les pousser. Lot ne supportera pas apparemment l'idée de retrouver un mode de vie hors de la ville. Il pleurera, il tiraidera les pieds jusqu'à ce que les messagers lui permettent de se rendre dans une petite ville de Soar qui est là plutôt que de partir vers les montagnes où il aurait pu être recueilli par Abraham, par exemple. Ils sont encore en chemin lorsqu'une explosion immense détruit la ville comme un feu venu du ciel. Probablement une explosion géologique qui libère du pétrole, du gaz, un immense embrasement. La femme de Lot ne peut pas s'empêcher de s'arrêter, de regarder en arrière, dans le regret de ce qu'elle a dû laisser. Et la voilà soudain pétrifiée par les scories qui volent de partout. Des années plus tard, le sel couvre toute la région devenue désertique. Et l'on se demande lequel des blocs de sel est la femme de Lot. Lot, quant à lui, parvient tout juste jusqu'à la ville de Tsoar à cause de ses hésitations, de son indécision. Au bout du compte, c'est un sauvetage plutôt qu'un vrai salut. Un sauvetage in extremis. Lot est sauvé au travers du feu, presque malgré lui. La prière d'Abraham a été exaucée. Lot doit énormément à cette prière. et à la bienveillance du Seigneur qui a bien voulu l'exaucer en la faveur de Lot. Est-ce que ce récit nous enseigne qu'il nous faut quitter ce monde ? Lot a dû quitter Sodome, nous faut-il quitter ce monde ? Non. Non. Car la figure qui nous est donnée en exemple, c'est la figure d'Abraham. Abraham vit dans ce monde, clairement. Mais Abraham s'y sait étranger et voyageur. Abraham n'accroche pas toutes ses valeurs dans ce monde. Il vit dans la foi en Dieu. Il vit dans l'amour pour Dieu. Il vit dans la loyauté envers Dieu. Mais Abraham ne se détache pas du monde. Abraham se détache du mal. Pas la même chose. Et nous ne sommes pas appelés à nous détacher du monde, nous sommes appelés à nous détacher du mal. Abraham cherche dans ce monde à marcher avec Dieu, à marcher selon Dieu. Mais il garde à l'égard de ce monde sa liberté intérieure. Il garde à l'égard de ce monde sa liberté de jugement. Il garde à l'égard de ce monde sa liberté d'attachement ou de détachement. Cette liberté intérieure, cette foi clairement assumée, lui permet de goûter la joie pleine et entière du salut de Dieu dans ce monde, d'un salut reçu dans la reconnaissance, d'un salut vécu dans la reconnaissance, d'un salut assumé dans la reconnaissance. Tout autre chose que le sauvetage in extremis de son neveu Lot, trop embourbé dans ses hésitations. En ce qui nous concerne, à des siècles de distance, ce récit garde toute son actualité. Si ce que Jésus a dit est vrai sur son retour, sur le jugement à venir, alors oui, le compte à rebours est en cours. Qui serons-nous dans cette histoire ? Qui serons-nous dans cette histoire ? Serons-nous Lot, l'hésitant ? Serons-nous la femme de Lot, incapable de se détacher en vue d'être sauvée ? Serons-nous les gendres qui sourient à la plaisanterie ? C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et personne ne sait s'il a encore le temps. Amen.